Ce matin, je vais parler de notre attitude par rapport au monde. Et ce terme de monde, on le trouve souvent dans la Bible, mais il n'a pas toujours le même sens. Le monde, c'est l'univers, c'est la création de Dieu. En grec, le mot pour monde, c'est cosmos, qu'on trouve aussi en français. Le monde, c'est pas seulement l'univers, c'est aussi la terre habitée dans la Bible. Et puis le terme en grec signifie aussi la parure et l'ornement. Voilà, l'ornement. Quelque chose qui est très bien arrangé. Le monde, ça désigne aussi, dans certains versets, l'humanité. L'humanité que Dieu aime et que Dieu voudrait sauver. Vous connaissez tous le verset du Nouveau Testament, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. S'il y a un verset qu'il faut retenir de l'Évangile, c'est peut-être celui-là. Et donc, là, ça, c'est le monde. Le monde désigne effectivement l'humanité que Dieu aime et qu'il veut sauver. D'ailleurs, le verset Jean 3,17 dit cela. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Mais il y a encore un autre sens du terme « monde ». Et là, le monde, c'est la réalité extérieure. C'est l'humanité aussi, mais en tant qu'elle se détourne de Dieu, en tant qu'elle refuse la grâce de Dieu, en tant qu'elle est hostile à la révélation de Dieu, et l'humanité qui veut s'en sortir sans lui. Et tout cela génère toutes sortes de choses, le système politique, économique, culturel, et au fond, c'est tout notre environnement non chrétien, le monde. Et nous baignons dedans parce que nous sommes engagés dans le système économique, nous travaillons, nous avons besoin d'argent pour vivre, nous avons besoin de salaire, de revenus pour acheter ce dont nous avons besoin d'y habiter, nous avons besoin d'y loger. On nous invite maintenant, pendant 3 semaines, à élire des députés au niveau fédéral. On est engagé dans tout cela. Et même si Jésus dit « Vous n'êtes pas du monde, je vous envoie dans le monde », il y a le fait qu'on est né dans ce monde, on est venu au monde. C'est d'ailleurs une expression qu'on utilise pour dire qu'on est né, on est venu au monde. Et on y baigne, on y est vraiment engagé d'une certaine manière jusqu'à la moelle de nos os et il nous imprègne, il nous influence. Et on vit dans une société aujourd'hui qui est d'une certaine manière extrêmement séduisante. Parce que si vous considérez l'histoire de l'humanité, et je parle ici uniquement du monde occidental, on n'a jamais, pour autant de monde, autant de gens ici, vécu dans une aisance comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Je ne dis pas que la vie est facile, mais l'aisance, elle est là. On n'est pas en train, tous les jours, d'aller chercher du bois pour faire du feu, d'aller chercher de la nourriture parce qu'on n'est pas sûr d'en avoir, de se demander où on va loger, d'avoir des problèmes dès qu'on a un souci de santé parce qu'on s'est coupé, qu'on a peur d'une affaire. On a un grand nombre de ressources qui ont été produites par cette société, par ce monde, et qui sont des choses qui sont, qui, dont on se réjouit de les avoir et qui sont bonnes à prendre et qui constituent aussi une forme de bénédiction indirecte de Dieu. Et donc, on est pour. Il y a d'autres choses qui sont peut-être de nature à nous interroger, parce que, d'une certaine manière, dans la société d'aujourd'hui, tout paraît possible. Aujourd'hui, chacun peut définir, en quelque sorte, sa propre identité. On peut décider qui on est ou qui on va être. On peut même décider de son identité sexuelle. C'est pas parce qu'on est né homme ou femme que nous disent un certain nombre de personnes qu'on est obligé de se sentir homme ou femme. On peut choisir. Aujourd'hui, on a des opinions, on peut penser à peu près ce qu'on veut, personne n'a le droit de venir nous dire « oui, mais c'est faux ». Tu ne peux pas penser comme ça. Une chose, elle est vraie ou fausse. Et tout ne peut pas être vrai en même temps. Et là, moi je suis, par ma formation de philosophe, estomaqué de voir que, apparemment, toutes les opinions se valent, mais les opinions, ce n'est pas la vérité. La recherche de la vérité, elle va plus loin. Et puis, s'il y a une vérité, alors il y a aussi de l'erreur. Et on peut avoir le droit d'avoir les opinions qu'on veut, mais de là à penser que toutes sont vraies, il y a un pas que je ne suis pas prêt à franchir. Et depuis la semaine passée, en France, le Parlement a décidé d'autoriser la procréation assistée pour tous. Et ça signifie qu'en France, les couples de femmes ont désormais le droit de demander à pouvoir bénéficier d'un don de sperme et avoir des enfants qu'elles vont élever ensemble. Et c'est remboursé par la sécurité sociale. Et on va se dire, oui, mais enfin, là, il y a une égalité. Et les couples d'hommes, alors ? Ce n'est pas encore prévu pour eux, mais on peut imaginer que dans quelques années, on leur permette d'engendrer des enfants avec des mères porteuses, bien sûr, qu'ils vont ensuite adopter comme étant leurs propres enfants. C'est dans la logique de l'évolution. Et moi, ce qui me sidère, c'est quand des gens d'un comité d'éthique qu'on a interrogé par rapport à ça disent « mais on n'est pas là pour dire le bien ou le mal ». Mais vous êtes là pourquoi ? Ah, on est là pour repérer les évolutions sociétales et en tenir compte. Donc les comités d'éthique, ça ne veut rien dire. Donc il y a des choses magnifiques dans le monde et il y a des choses qui font peur et qui sont préoccupantes. Mais Jésus, qu'est-ce que j'ai lu tout à l'heure ? Un verset où Jésus disait « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Alors, ces dérives, ces choses qui nous interrogent, qui nous choquent, qui nous paraissent peut-être scandaleuses, elles sont là. Et je pense que ça ne suffit pas de se dire si on n'est pas d'accord et qu'on nous demande notre avis, il faut le donner, bien entendu. Mais on n'est pas là non plus, au fond, si on est là pour suivre Jésus, on n'est pas là forcément pour juger, simplement se poser en juge. qu'il y a dans cette mentalité du monde, je disais qu'on baigne dedans, elle nous imprègne et elle nous influence aussi dans l'Église. On vit aujourd'hui dans une époque où, si, je vais prendre un exemple, si on ne se sent pas vraiment à l'aise dans une assemblée, eh bien on change. Ou si on ne se sent pas vraiment à l'aise dans la foi chrétienne, ben on laisse tomber. Personne ne va finalement vous condamner pour ça, c'est admis. Mais il y a une autre manière dont le monde peut influencer l'Église, c'est que les gens qui ont recours à la maternité pour tous ou à la procréation médicalement assistée ou à des choses comme ça, ou qui sont homosexuels, etc., ils ont besoin de salut aussi. Et il faut aussi que les églises puissent les accueillir et avoir des choses à leur dire pour les aider dans leur recherche du salut. Et c'est des défis très, 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 très grands qui sont là devant nous. Et voilà, donc, ce monde où chacun fait les choses à sa mesure, selon ce qui lui convient, selon qu'il se sent bien ou moins bien, etc., bon, il nous fait envie, il nous attire par certains côtés, parce qu'on aime avoir recours à de la facilité, on aime un certain confort, on aime un certain luxe, on est content de pouvoir se déplacer et pouvoir voyager, on peut encore prendre l'avion pour le moment, on verra dans quelques années avec toutes les préoccupations climatiques si ça ne va pas devenir plus difficile pour d'autres raisons, mais ce monde, il est là et nous sommes dedans et comme je le disais, Jésus disait, je ne vous ai pas, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, parce que en devenant chrétien, nous avons acquis une nouvelle identité. Nous sommes devenus fils et filles du Père. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, et cette nouvelle identité, eh bien, elle est une chose extrêmement importante qu'il nous faut essayer de vivre d'une manière peut-être plus nette que celle que nous avons spontanément tendance à vivre. Et une des choses qui me frappe, et je ne sais pas si c'est la mentalité du monde qui se joue là, ou si c'est autre chose. Et ici, je parle pour nous, comme chrétiens en Église, c'est que on a tendance souvent, vous peut-être pas, mais moi je le remarque pour moi en tout cas, à s'en remettre, quand on lit la Bible, à des passages qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qui nous rassurent. Et moi qui suis né dans une famille catholique, et j'ai été à la messe tous les dimanches jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près, une chose me frappe maintenant que je suis dans une église évangélique, c'est qu'il y a une chose qu'il y avait à la messe et qu'il n'y a pas ici. Tous les dimanches, on lisait un passage de l'Évangile. Chaque fois que la messe est dite, il y a un passage, en semaine aussi, un passage de l'Évangile qui est lu. Et quand c'est le moment de cette lecture, on se lève. C'est quelque chose de particulièrement solennel. Il y a beaucoup de choses dans la messe que je n'aime pas, mais ça, oui, ça, c'est. Il y avait chaque fois la proclamation de la parole de Dieu avec l'Évangile et puis un autre texte, soit des Épîtres, soit de l'Ancien Testament, parfois les deux. et encore de temps en temps des versets des psaumes. C'est que, ce point de vue-là, je me dis, il y a une forme de fidélité à la parole de Dieu qu'il faut saluer. On va dire ça simplement comme ça. Et quand je pense à la manière dont on parle de l'Évangile dans notre Église, dans nos Églises, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont très fortement affirmées. Ça a été affirmé dans les chants de louange, par exemple, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et le fait que Jésus est mort, crucifié, et qu'il a pris nos maladies, nos péchés à la croix, et qu'il nous donne, l'espérance de la vie éternelle, et que ce sacrifice est pleinement suffisant, et que là, c'est la preuve incroyable de l'amour de Dieu pour nous. Ça, c'est beaucoup moins affirmé à l'Église catholique, hélas. Mais c'est fondamental. Mais il y a d'autres choses qui sont aussi peut-être assez fondamentales, c'est toute une série de paroles de Jésus qui sont dans les évangiles, mais dont on parle très peu. Parce que quand on lit attentivement les évangiles ou d'autres passages de la Bible, on se dit, mais c'est rude, c'est des paroles, c'est presque choquant. Connaissez la parabole à propos des vierges folles et des vierges sages qui attendent l'époux, et puis voilà que au milieu de la nuit, il arrive. Alors les vierges sages qui ont fait provision d'huile allument leur lampe et c'est bon. Et puis les autres disent « Oh, on a oublié d'acheter de l'huile. Est-ce que vous pouvez nous en donner ?»« Ah non, non, on a juste ce qu'il faut. Allez vous en acheter à ceux qui en vendent », leur est-il répondu. Et pendant qu'elles y vont, l'époux est là et les portes sont fermées et c'est fini. Mais les vierges folles, elles sont, on pourrait dire, elles sont aussi chrétiennes. Argue. Elles sont quelque part, elles attendent l'époux, elles sont là, elles le veulent. Et puis bon, zut, elles manquent d'huile. Mais c'est dur comme passage, je trouve. Et donc ça m'interroge et je me dis, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi se dire, mais il n'y a pas que les passages où on voit que Jésus nous aime et puis qu'il nous fait du bien, etc. Ça, oui, bien sûr. Mais il y a des exigences dans les paroles de Jésus qui ne sont pas moins fortes et pas moins raides ou radicales que ce qu'on lit parfois chez les prophètes dans l'Ancien Testament, où là aussi, ça y va. Vous savez, depuis quelques mois, je me suis dit, mais je lis la Bible distraitement. Il faut que je change ça. Et pour changer, j'essaye de la lire chaque jour, et puis je prends différents... J'ai un système de lecture qui en vaut d'autres. Et simplement, je lis pas tous les... Le lundi, c'est le Pentateuque, le mardi, c'est les évangiles, le mercredi, c'est les livres historiques, le jeudi, c'est les épîtres, le vendredi, c'est les prophètes, le samedi, qu'est-ce que c'est là, c'est les épîtres, mais pas celles de Paul, et puis le dimanche, c'est les psaumes, les livres poétiques. Voilà. Et chaque jour, je lis quelques versets, ou un chapitre, ou plus, ça dépend. Voilà. Et je me suis dit, mais maintenant, je résume ce que j'ai lu. Simplement, je dis, qu'est-ce qu'il dit? Ou bien je recopie quelques versets clés, et puis le fait de les écrire, et puis de mettre ça sur le papier, fait que je suis obligé de faire beaucoup plus attention à ce que je lis que si je lis comme ça, plus ou moins attentivement, plus ou moins distraitement. Et c'est là que je suis stupéfait de l'autorité, d'une part, de la parole de Dieu, et puis de ce qui est dit par rapport au peuple d'Israël ou par rapport aux membres de l'Église. Et ça... Oui, travailler à votre salut avec crainte et tremblement, je crois que ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une vaine, c'est pas une vaine parole. Le Seigneur nous aime, mais il veut que nous le suivions, il veut que nous fassions sa volonté, que nous suivions ses commandements. Et, n'est-ce pas, il y a un verset auquel j'ai pensé par rapport à la difficulté que nous avons à être vraiment consacrés. C'est, vous connaissez tous la parabole du semeur qui sème, etc., dans les différents terrains, et puis quand ce n'est pas dans la bonne terre, ça ne se passe pas très bien. Et moi, j'ai longtemps été, et je continue d'être touché, interpellé par cette semence qui tombe dans les épines. Et quand Jésus donne l'explication de la parabole, qu'est-ce qu'il dit ? Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Or, nous sommes appelés à porter du fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, là aussi, ben il est bon à mettre au feu. Donc, là, il y a vraiment là des paroles fortes par lesquelles je me sens interpellé, parce que je me dis, mais j'en suis où par rapport à ça ? Est-ce que je suis dans l'objectif ou est-ce que je suis à côté de la plaque ? Alors, qu'est-ce qui nous anime ? Et puis, puisque nous sommes appelés à porter du fruit vis-à-vis des gens, ça signifie, comme je le comprends, parler de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, aller dans la moisson, hein, qui manque d'ouvriers, pour que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur puissent faire sa connaissance et puis parvenir au salut. Si nous nous tiédissons et si nous nous laissons étouffer par les soucis du monde, il y a presque plus de différence entre nous et eux. Ah oui, vous êtes chrétien, mais à part ça. S'il n'y a pas de différence, qu'est-ce qu'on a à leur dire ? Si nous vivons exactement comme eux, s'il n'y a pas de différence entre leur vie et la leur, on est comme eux et puis on a une opinion. Voilà. Puis voilà, bon, ben, si ça te fait plaisir, ça te fait plaisir. Puis, voilà. Et je crois que Jésus nous aime. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est quelque chose qui est absolument clair. Il nous aime et il l'a prouvé. Maintenant, est-ce qu'il est venu pour nous faire plaisir ? Il est venu nous sauver. Il est venu nous racheter à grand prix. Et je ne crois pas qu'il nous donne ce que nous voulons, mais il nous donne ce dont nous avons besoin. Et je parlais des opinions et de la vérité. La vérité, ce n'est pas juste une idée juste, c'est une personne, c'est Jésus. Je suis le chemin, je suis la vérité. Je suis la vie. Et donc, c'est pas la vérité n'est pas une opinion, elle n'est pas un avis, elle n'est pas une question de choix. Elle est cette personne qui dit, ben, suis-moi. Et au fond, vis comme moi, vis à ma suite, apprends à me connaître. Mets-toi à mon école. apprends à connaître mes exigences, parce qu'il y en a. Et donc, nous avons, il me semble, le devoir de nous mettre vraiment, peut-être davantage que nous ne le faisons, à l'écoute de Dieu, à l'étude de sa parole, à la prière, demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous enseigner aussi, et puis de lire notre Bible entièrement. J'avais autrefois un ami qui a été pasteur et qui était aussi un peu écolo et qui disait, mais il faut l'évangile complet, Vollkorn Evangelium, avec le son aussi. Il faut le moudre, c'est un peu plus âcre par certains côtés, mais Vollkorn Evangelium, parce que sinon ça constipe, disait. Il avait un franc-parler de ce genre-là. On a besoin des fibres aussi. Pas seulement la douceur. L'évangile au blé complet, au grain, l'évangile complet, hein, avec tout ce qu'il contient. Et si je prends par exemple un exemple simple. On a tous entendu souvent, et on le dit parfois quand on est un peu découragé, ce verset, Matthieu 11-20, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Amen. On va dire amen tout de suite, parce qu'il y a une suite justement. Si je lis les deux versets qui suivent, je vais reprendre le tout. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. Dans une autre traduction, prenez mon joug. Et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Alors, c'est une traduction récente. Acceptez mes exigences. Moi, je trouve qu'elle a deux défauts. Le premier défaut, c'est qu'elle dit, elle parle pas du joug, mais c'est une traduction moderne. Qui a déjà vu un joug parmi vous? Voilà. Heureusement qu'on a tous un certain âge et qu'on a vu des paysans, hein, et qu'on sait que c'est ce qu'on pose sur les chevaux ou les bœufs autrefois pour les atteler et pour aussi les conduire, pour qu'ils puissent tirer la charrue, le char et tout ce qu'on met derrière eux. Et en général, ils sont par deux. Mais il y a aussi des joues pour un seul animal, pour un seul cheval, par exemple, ou un seul bœuf. Et puis, accepter mes exigences, c'est passif. Tandis que prenez mon joug, c'est plus actif comme parole. Donc, ça vaut la peine parfois de comparer les traductions d'aujourd'hui avec des traductions peut-être d'il y a 50 ou d'il y a 100 ans, parce que second, ça a aussi beaucoup évolué dans les traductions, et second 21, ben, ça parle mieux aux gens d'aujourd'hui, c'est important, mais maintenant, une fois que nous ne sommes plus au petit lait, mais qu'on mange du steak, il faut aussi aller voir un petit peu les traductions qu'on trouve des versets dont on a trop l'habitude sous une certaine forme. Prenez mon joug, c'est actif et c'est fort comme image. Hein. Et si on doit prendre le joug de Jésus alors qu'on est fatigué et chargé, il faut peut-être commencer par se décharger de celui qu'on a déjà sur nous, qu'on a mis sur nous, ou qu'on s'est mis soi-même, en croyant bien faire peut-être. Et donc, prenez mon joug, ben, ça signifie déjà enlever celui qu'on a, puis prendre celui de Jésus. Et avec ça, ben, on sait que ben, un joug c'est fait pour... On devient un peu bête de somme. Hein. Alors si c'est pour deux, peut-être qu'à côté on a Jésus. Hein. Et puis en tout cas, c'est lui qui conduit. C'est lui qui prend le volant. Et ça, c'est, ben, il faut vraiment beaucoup lui faire confiance. Alors, qu'est-ce que je veux dire dans tout cela ? Moi, je crois que nous devons entrer en résistance contre la mentalité du monde. Comme chrétiens, nous avons besoin de ça. Les lois et les valeurs du royaume de Dieu n'ont rien à voir avec celles que nous avons dans nos pays, même dans les pays qui ont une tradition chrétienne. Si vous lisez le Sermon sur la montagne, déjà rien que les béatitudes sont proclamées heureux les gens que, dans le monde d'aujourd'hui, on considère comme les plus pauvres, les plus malheureux. C'est un retournement complet. Nous avons besoin d'entrer en résistance contre la mentalité du monde. Nous avons besoin de trouver une manière plus authentique d'être chrétien. Parce que si nous sommes finalement des gens mondains avec un vernis chrétien, ça reste le monde. Il faut qu'on fasse une différence. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus, dit Jésus. Il y a cette promesse. Et si nous sommes dans le monde, mais plus du monde, eh bien, c'est parce que nous sommes là comme des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes envoyés en terrain souvent hostile, parfois complètement indifférent, mais si nous ne faisons pas le travail, qui le fera ? Nous sommes, chacun de nous est le seul à être à sa place dans cet endroit-là et dans cet entourage-là. Donc on a besoin de se fortifier et de prendre courage, comme il était dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, parce que on dit on a besoin d'une force et d'un courage qui ne sont pas naturels, parce que spontanément on se barre, c'est dur, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'on va, oui, c'est difficile. Et il y a une chose dans moi, j'aime beaucoup le Sermon sur la montagne, je trouve que c'est un des passages les plus extraordinaires de la Bible, mais il y a aussi des avertissements qui sont impressionnants, un peu comme dans l'histoire des vierges sages et des vierges folles. Et moi je trouve que quand Jésus dit, c'est Matthieu 7:21, quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il y a une condition. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? Ils ont prophétisé. En ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. C'est là que vient l'histoire des deux maisons. Et c'est là que nous avons besoin de nous enraciner sur le roc, si c'est possible, de nous fonder sur ce roc de la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Parce que sinon, on est comme la maison sur le sable. On peut être balayé. Alors, il y a un autre passage que j'aimerais lire pour terminer, mais je ne sais plus où il est. C'est aussi dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 5 et au verset 13. Et moi, je crois que c'est une des clés pour aller plus loin. Je vous le lis. C'est vous qui êtes le sel de la terre et la lumière du monde, plus loin. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Le sel, je ne sais pas si quelqu'un est tenu à un régime sans sel parmi vous, c'est difficile. Parce que c'est comme exhausteur de saveur, c'est puissant. Et puis, comme moyen de conservation des aliments, ça marche bien aussi. Hein, ça empêche la pourriture. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et c'est ça que c'est là-dessus que j'aimerais conclure. Hein. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Que notre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos œuvres bonnes et glorifient non pas nous-mêmes, mais notre Père qui est dans les cieux. Soyez bénis. Amen.